VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. Le pape François et le grand imam Ahmed Al-Tayeb, imam d'Al-Azhar, ont eu des consultations aujourd'hui au Vatican. Une rencontre historique et très cordiale selon le Saint-Siège. Après 10 ans de relations tendues entre les deux institutions religieuses en raison des propos controversés de Benoît XVI semblant lier islam et violence. Le message à retenir de cette réunion entre les deux leaders religieux qui se sont donné l'accolade, c'est notre rencontre elle-même, a affirmé le pape François à la presse. C'est la première fois qu'une telle réunion a lieu au Vatican. Le 24 février 2000, Jean-Paul II avait rendu visite au Caire au grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Mohamed Sayed Tantawi. Le pape François et l'imam Ahmed Al-Tayeb ont tous deux salué la signification importante de cette nouvelle rencontre dans le cadre du dialogue entre l'Église catholique et l'islam. En Syrie, au moins 121 morts, la quasi-totalité des civils. Tel est le bilan de plusieurs attentats ayant visé aujourd'hui deux villes fièvres du régime syrien et revendiquées par le groupe État islamique, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Les attentats, 5 attaques suicides et 2 véhicules piégés ont été menés à Tartous et à Djablé, 2 villes côtières de l'ouest du pays, qui sont à majorité alaouite, la communauté minoritaire à laquelle appartient le président Bachar al-Assad. Il s'agit des attentats les plus meurtriers dans ces deux localités relativement épargnées par la guerre qui ravage le pays depuis 5 ans. Et puis en Irak, les forces gouvernementales convergent maintenant vers Fallujah, à 50 km à l'ouest de Bagdad, après l'annonce par le premier ministre irakien Haider al-Abadi aujourd'hui du lancement de l'offensive pour reprendre cette ville au groupe djihadiste État islamique qui l'occupe depuis près de 2 ans et demi. Les détails avec Michel Joseph.
Le premier ministre Abadi a déclaré dans un communiqué « Nous commençons l'opération pour libérer Fallujah et le drapeau irakien sera hissé et flottera haut au-dessus des terres de Fallujah », a-t-il affirmé. Selon M. Abadi, des soldats, des membres des forces spéciales de la police, des milices et des tribus pro-gouvernementales vont participer aux opérations pour reprendre la ville. Cette annonce règle la question de savoir quelle devrait être la prochaine ville à être reprise des mains du groupe État islamique. Un sujet qui divisait les responsables irakiens et les forces internationales présentes sur le terrain pour combattre l'organisation djihadiste. Mossoul, la deuxième ville d'Irak, dans le nord, était la cible privilégiée par les militaires américains, mais de puissantes milices irakiennes se sont déployées autour de Fallujah pour préparer une attaque. Les forces irakiennes ont préparé le terrain pour la reprise de Mossoul, mais elles progressent lentement et un éventuel assaut n'est pas pour tout de suite. La coalition internationale pour le I, dirigée par les États-Unis, a mené la semaine dernière 7 frappes aériennes dans la région de Fallujah. Et Bagdad a annoncé avoir bombardé la ville avec des F-16 mis à disposition par les Américains. La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Afrique du Sud, le parquet s'est déclaré défavorable au rétablissement de 783 chefs d'inculpation contre le président Jacob Zuma. Le parquet sud-africain a décidé de faire appel de la décision de justice stipulant que le président Zuma devait être poursuivi pour corruption dans une affaire de contrat d'armement, a annoncé aujourd'hui le procureur général. Fin avril, la Haute Cour de Pretoria avait estimé que le parquet avait agi de façon irrationnelle en abandonnant en 2009 pour vice de forme des charges de corruption pesant sur Jacob Zuma. Elle avait ajouté que cette décision devait être revue, renvoyant ainsi la balle au parquet. Le Soudan intensifie la pression pour que les casques bleus se retirent du Darfour. Khartoum assure que cette région ravagée par la guerre est désormais pacifiée, ce dont doutent des diplomates et des experts. Ces pressions augmentent à l'approche du lancement en juin de discussions au Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement de la mission onusienne au Darfour. Gabon, à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, les différents cadres de l'opposition ne cessent de se mobiliser avec un objectif commun, celui de barrer la route au président Ali Bongo et un second mandat. Parmi eux, Casimir Oyemba, ancien premier ministre d'Omar Bongo Ondimba, le père de l'actuel président. Oyemba est une deuxième fois en lice après un abandon en 2009. Au micro de Tatiana Mosso, Casimir Oyemba réitère son appel au président gabonais pour un dialogue national et revient sur le débat au sujet de la légitimité de ce dernier à se représenter.
Oui, j'irai jusqu'au bout cette fois-ci. Si mon parti, l'Union nationale, décidait à son congrès extraordinaire qui se tiendra en principe à la fin de ce mois, de me choisir. La deuxième étape, c'est au sein du front de l'opposition pour l'alternance. Si à cette seconde étape, je suis également retenu, à ce moment-là, je serai candidat.
Y a-t-il une motivation différente par rapport à 2009 ?
En 2009, ma motivation principale était que le pays venait d'être privé du président Omar Bongo. Donc je considérais qu'il y avait comme une sorte de vide un peu qui se créait à la tête de mon pays. Cette fois-ci, c'est le constat de la mauvaise gouvernance de mon pays depuis que M. Ali Bongo Ondimba en tient les rênes.
Presque tous les ténors de l'opposition sortent de l'arrière des Bongo. Jean Ping, Jean Yingdong ou d'autres que l'on peut citer, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus ?
Certains de ceux que vous avez cités ont été des soutiens en 2009 de M. Ali Bongo Ondimba. Finalement, aujourd'hui, ils m'ont rejoint. Je suis resté constant avec l'appréciation de la situation de mon pays aujourd'hui.
Cette problématique d'une élection à un tour, comment est-ce que vous percevez ça ?
Les élections n'ont pas toujours été à un tour au Gabon. C'est à l'occasion d'une révision constitutionnelle ultérieure qu'elles sont devenues à un tour. Le parti auquel j'appartiens, l'Union nationale, demande depuis longtemps l'instauration d'un dialogue national. Notre demande, c'est de revenir aux deux tours de scrutin. Nous avons aussi une demande concernant la limitation du nombre des mandats présidentiels à deux au maximum. Le pouvoir n'a jamais accepté ce dialogue. Nous sommes pour la promotion d'une candidature unique de l'opposition sans nous dissimuler les difficultés de l'opération.
On va revenir sur cet article 10 et toute cette polémique autour. Quelle est votre position par rapport à ça ?
L'article 10 de la Constitution dit ceci. Pour être candidat à la présidence de la République gabonaise, il faut être gabonais bien sûr, mais il ne faut pas avoir acquis la nationalité gabonaise. Ça veut donc dire qu'il faut être gabonais de naissance. Le problème qui se pose, c'est que depuis 2009, M. Ali Bongo Ondimba n'arrive pas à produire un acte de naissance établissant, prouvant qu'il est gabonais de naissance. Il faut appliquer la Constitution, donc il ne doit pas pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Alors, c'est la Constitution qui dit ça.
Casimir Oyemba, candidat à la présidence du Gabon.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, appel des catholiques ivoiriens en faveur de la libération des détenus emprisonnés en rapport avec la crise post-électorale de 2010-2011. La réconciliation, naturellement, exige la libération des prisonniers dans le cadre du conflit advenu dans le pays. Surtout que de ce point de vue, personne ne peut se dire innocent, a déclaré l'évêque de Katiola, Mgr Iyas Bessi Dogbo, dimanche à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, où des dizaines de milliers de chrétiens s'étaient réunis pour le pèlerinage national lancé dans le cadre du jubilé de la miséricorde. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Nyaka Lagoke, professeur d'histoire du monde et de l'Afrique à Montgomery College, ici dans l'état du Maryland, aux États-Unis, et fondateur du Revival of Pan-Africanism Forum.
Ce n'est même pas le fait que l'Église catholique demande la libération des prisonniers politiques, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que l'Église catholique prend à contre-pied le président de la République qui avait déclaré qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, je pense que c'est une bonne chose que l'Église catholique ait fait cette démarche. Et puis, troisièmement, je pense que les autres confessions religieuses, les imams et puis d'autres confessions, elles devraient emboîter le pas à l'Église catholique parce que la question de la réconciliation nationale ne bouge pas. Le pays est dans une sorte d'illusion de stabilité, dans une sorte d'illusion de développement. Et on a les enfants soldats de M. Alassane Draman Ouattara, qu'on appelle les microbes qui tuent, que ce soit les partisans de M. Ouattara ou les partisans de Gbagbo, Bété, Djoula, Baoulé. Et c'est un phénomène terrible. Alors, je pense que avec cette nous allons voir comment est-ce que le président va réagir et il n'a pas d'autre choix que vraiment de faire ce qu'il faut pour que les Ivoiriens puissent se parler et se réconcilier.
Nyaka Lagoke, professeur d'histoire du monde et de l'Afrique à Montgomery College dans l'état du Maryland, ici aux États-Unis, et fondateur du Revival of Pan-Africanism Forum. Le président des États-Unis Barack Obama a annoncé aujourd'hui la levée de l'embargo sur les ventes d'armes américaines au Vietnam, l'un des derniers vestiges de la guerre entre les deux pays qui s'est achevée en 1975. Le chef de l'exécutif américain a assuré que ce n'était pas une réponse directe à l'attitude de la Chine, dont la posture offensive en mer de Chine méridionale suscite des tensions dans la région. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.